Même audio? Une mémoire sonore?
Le conte est bon. Conte d'ici et d'ailleurs, pour grandes et petites oreilles.
Bonjour à tutti et bienvenue sur Radio Octopus. Sono Michaela et sono qui pour vous raconter encore des histoires. Le thème d'aujourd'hui, c'est le voyage. Et je commence par un conte de tradition juive. Saverio aime son village. La douceur des collines alentours, les volets peints des maisons, l'église et son clocher où se reflètent les derniers rayons du soleil dans les parfums du soir. La place ronde où les vieux qui jouent aux cartes les saluent tous les soirs quand ils rentrent du travail, comme s'ils le connaissaient. C'est un peu le cas, car c'est le village où il est né et où il a passé toute sa vie, comme ses parents avant lui et ses grands-parents avant eux. Ou presque. Ses parents avaient fait leur voyage des noces à Varsovie. Son père lui en parlait souvent. Ah, les routes de Varsovie, les grandes places, les couleurs des maisons de Varsovie, et les gens si polis, et les femmes si belles de Varsovie. Et Saverio, pendant toute son enfance, voyez une photo prise à Varsovie de ses parents souriants et amoureux. Cette photo trônait devant la cheminée. Et Saverio petit se disait « Quand je serai grand, j'irai à Varsovie et je me marierai avec une femme de là-bas, si belle et si gentille. » Mais en grandissant, il a suivi son chemin sans écart et il a repris la boutique de ses parents. Et il s'est marié avec la fille des voisins. Et il a eu deux enfants qui grandissent à corps et à cri, surtout à cri, pendant que la photo jaunissait dans la poche de son veston. Mais les rêves étaient encore là, lui, restés coincés dans sa tête, comme un caillou dans une chaussure. Et la nuit, quand Saverio n'arrive pas à dormir, il se lève, il sort la photo de sa poche, la regarde et il soupire. Varsovie. Varsovie. Ah, Varsovie. Le temps passe. Et la journée, il est fatigué et distrait, plus rien ne l'amuse. Ses enfants sont bruyants et le fatiguent. Sa femme l'ennuie avec ses histoires. Le repas est fade et sa maison est banale et sans charme. Et son village, si provincial. Ah, Varsovie! Une nuit, où il soupire un peu plus fort que les autres nuits, sa femme se réveille et s'approche de lui. « Saverio, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne me regardes plus. Tu me parles à peine. Tu passes ton temps à fixer cette vieille photo. Mais c'est quoi ton problème ?»« C'est que... Eh ben voilà, je suis là avec vous, mais ma destinée à moi... C'était d'aller à Varsovie.
Varsovie? Et c'est où ça?
Mais là! Lui dit-il en lui montrant la photo qu'il tient dans sa main. Ah, Je vois, dit-elle sans comprendre. Bon, tu as besoin de vacances. Et alors, vas-y si tu veux. Va à Varsovie, là. Et nous, on se débrouillera. Je m'occuperai de la boutique et Julia, c'est grand pour donner un coup de main avec les clients. Mais maintenant, viens dormir. Il se recouche. Mais Saverio a du mal à trouver le sommeil. Il pense aux mots de sa femme et à... Varsovie. Le lendemain matin, il se lève plein d'enthousiasme, prépare ses affaires, dit au revoir à sa famille et se met en chemin. Direction Varsovie. Il marche toute la journée et les soirs, fatigué mais heureux, monte sa tente au bord du chemin. Il a une seule inquiétude. C'est la première fois qu'il voyage, il n'a pas beaucoup de sens d'orientation et il a peur au réveil de se tromper du chemin. Alors, il positionne toujours l'entrée et sortie de la tente en direction de Varsovie. Comme ça, le matin, il sait par où il doit aller. Il marche pendant plusieurs jours. Les collines laissent place à des grandes plaines parsemées des moulins à vent. Le soir, il monte sa tente, toujours faisant bien attention à mettre l'entrée dans la bonne direction. Et la nuit, il dort profondément, si heureux d'accomplir enfin son rêve. Varsovie. Une nuit, un vent très fort se lève. L'orage gronde, mais ça ne le réveille absolument pas. Il ne se réveille pas même quand le vent se fait tellement fort qu'il soulève sa tente et le fait tournoyer, tourbillonner à l'air comme une toupie. Pour le reposer à l'aube à la même place. Mais à l'inverse, c'est-à-dire tourner dans la direction d'où il vient, et non pas dans la direction de Varsovie. Au réveil, il ne s'aperçoit de rien. Il part dans la mauvaise direction. Il ne se rend pas compte qu'il est en train de faire demi-tour et reprendre le chemin par lequel il est arrivé. Il s'étonne juste que cette plaine soit si vaste et si monotone, et qu'il y ait encore autant de moulins à vent. Mais il continue son voyage. Après quelques jours, il est soulagé de trouver des collines comme celles qui sont par chez lui, mais plus douces, plus verdissantes. Ah, Varsovie! Seulement à Varsovie, il pouvait y avoir des si beaux paysages. Quand enfin, il voit les villages au loin, il se dit « Ah, Varsovie !» Elle n'est pas si grande, mais quel beau clocher. On dirait celui de mon village, mais le plus grand, plus beau que celui de chez nous. Au son cœur, bat la chamade. « Varsovie, Varsovie, ah, Varsovie !» Il accélère les pas. Et quelle étrange émotion. Tout est nouveau. Et en même temps, il a l'impression de tout connaître, de reconnaître les rues. Cette place ronde, si belle, il lui rappelle... Mais oui, évidemment, ça doit être celle de la photo. Et en plus, il a tellement rêvé de Varsovie que c'est comme s'il la connaissait déjà. Dans la place, des hommes qui jouent aux cartes assis aux tables des cafés lui disent bonjour, comme s'ils le connaissaient. Est-il possible qu'eux aussi aient rêvé de lui? Mais non, ils sont juste tellement urbains, tellement polis, les habitants de Varsovie. Rien à voir avec les péquenauds de chez lui, hein? Et en se promenant dans ces rues si belles, avec leurs belles maisons colorées, il voit une rue qui a le même nom que sa rue. quelle coïncidence. Il a envie, comme ça, de voir au numéro 7. Là, il y aurait sa maison. Et il y a, en effet, une maison toute semblable à la sienne. Tellement qu'on pourrait s'y méprendre. Mais elle est beaucoup plus belle. Les jardins un peu soignés. Et sans trop savoir ce qu'il fait, il frappe à la porte. Sa femme lui ouvre. Tu es là? Que je suis heureuse de te voir. J'étais si inquiète pour toi. Madame, vous faites erreur. C'est la première fois que je mets les pieds à Varsovie. Mais moi aussi, j'ai comme l'impression de vous connaître. Le destin, peut-être. Le destin, peut-être. Et il rougit devant cette femme si belle et charmante qui s'inquiète pour lui. Jamais sa femme ne s'était autant inquiétée pour lui. Cette femme, d'ailleurs, ressemble un peu à sa femme. Mais son regard, la douceur de ses traits, ses longs cheveux châtains, non, rien à voir. Cette femme est une vraie beauté. Il en est tout ému. Et quand cette femme l'invite à entrer, elle le remplit des mille attentions, lui prépare à manger son plat préféré, et le prie de rester, il reste. Et quand elle lui prend la main et le conduit vers le lit, il en est complètement bouleversé et ils font l'amour comme jamais. Ah, Varsovie! Quand les deux enfants rentrent à la maison, la femme va vers eux et leur chuchote. Papa est de retour, mais il est un peu bizarre. Soyez gentil et patient avec lui. Saverio trouve que les enfants de cette femme ont le même âge que les siens. Mais qu'est-ce qu'ils sont calmes et polis, ceux-là! Il aimerait rester là pour toujours. Mais il a des scrupules. Sa famille l'attend, et cette femme est sans doute mariée. La nuit, il s'endort dans les bras de cette femme douce et aimante. Et il fait un drôle de rêve. Oui, c'est ça. Maintenant, il sait, il a tout compris. Sa destinée était de vivre ici à Varsovie. Mais quelqu'un a pris sa place. Mais maintenant qu'il est là, lui, cette personne, est allé sans doute prendre sa place chez sa femme et ses enfants dans son village. Et du coup, ben, tout est rentré dans l'ordre. Quand il lui explique ça, la femme, sa femme, lui prend la main. « Ah, je vois, » dit-elle sans comprendre. « L'important est que tu restes ici maintenant. » Lui dit oui et l'embrasse avec tendresse. Tout en répondant à ses baisers, elle lui soustrait la photo de Varsovie qu'il gardait toujours dans la poche de son veston. Elle la jette dans le feu de la cheminée. Adieu Varsovie. Ils vécurent très heureux.
Così forte no, e potresti ripartire. certamente non volare, ma viaggiare. Sì, viaggiare.
Vous écoutez Radio Octopus et c'est Michael avec des contes sur le thème du voyage. Quand j'ai choisi ce thème, j'ai pensé raconter des histoires de longs voyages. Mais j'avais cette phrase de Pessoa dans la tête.
A vida é o que fazemos dela.
La vie est ce que nous en faisons. Les voyages, ce sont les voyageurs eux-mêmes. Ce que nous voyons n'est pas fait de ce que nous voyons, mais de ce que nous sommes.
O que vemos não é o que vemos, senão o que somos.
Et du coup, c'est d'autres histoires qui me sont venues à l'esprit. Il y a deux voyageurs. Le voyage est long et ces jours-là, il fait particulièrement chaud. Ils ont fait déjà beaucoup de routes sans croiser personne. Il voit au loin, au haut d'une colline, un village, mais l'un d'eux, le plus âgé, est trop fatigué. Il s'assoit à l'ombre d'un arbre et demande au deuxième d'aller lui chercher de l'eau dans la fontaine du village. Le jeune homme monte jusqu'au village, s'approche de la fontaine, et là, à la fontaine, il y a une jeune femme. Et quand il la voit, ils sont... Son cœur bat à toute vitesse. Il perd ses moyens. Et elle lui sourit. Il lui demande s'il peut l'aider à porter ses gros seaux d'eau. Elle lui dit oui. Alors il l'accompagne jusqu'à chez elle. Et après, il rencontre ses parents qui l'accueillent très gentiment. Et il les aide aussi à la ferme. Et les deux, ils tombent rapidement amoureux. Et les mariages sont célébrés. Et lui, il reste habité là. Et ils ont des enfants. Et les enfants grandissent. Et ils partent. Et ils sont grands, ils font leur vie. Et sa femme, après tant d'années ensemble, tombe malade. Elle meurt. Et lui, il a eu une vie si heureuse. Et un jour, quand il va à la fontaine chercher l'eau, là, d'un coup, il se souvient. « Ah ! Mon copain qui avait soif !» Alors, avec son seau rempli d'eau, il dévale la colline, il voit de loin l'arbre, il s'approche et les retrouve là. Et son copain lui dit « Oh là là ! Tu en as mis du temps. »
Le conte est bon. Conte d'ici et d'ailleurs, pour grandes et petites oreilles.
Viajar, para viajar basta existir.
Voyager, pour voyager, il suffit d'exister.
Vou de dia para dia, como de estação para estação, no comboio do meu corpo, ou do meu destino.
Je vais d'un jour à l'autre, comme d'une gare à l'autre, dans les trains de mon corps. Ou de ma destinée, penchée sur les rues et les places, sur les visages et les gestes, toujours semblables, toujours différents, comme du reste le sont les paysages.
Debruçado sobre as ruas e as praças, sobre os gestos e os rostos, sempre iguais e sempre diferentes, como afinal as paisagens são.
Thank you. Dans cette ville, il y avait une place. Dans cette place, les bus des 17h12 arrivent. De ce bus descend une femme, une jeune femme, qui espérait arriver dans la grande ville de la soirée et qui se retrouve là. Il n'y a pas d'autre bus jusqu'au lendemain matin. Elle n'a pas d'argent pour se payer un hôtel. Elle n'a pas d'argent pour se payer un restaurant. Elle a juste l'argent pour se payer les billets des bus pour arriver à la grande ville et trouver du travail. Elle, ce qu'elle voudrait faire, c'est cuisinière. Mais bon, ça sera après. Là, pour l'instant, il voudrait déjà avoir quelque chose à se mettre sous la dent pour ce soir. C'est pas grave, elle s'est dit. J'y trouverai sans doute quelqu'un qui veut bien m'aider. C'était une petite ville toute propre. Les maisons étaient propres, avec des beaux jardins, bien soignés, derrière des grandes grilles bien pointues, avec des caméras de surveillance et des chiens. Bon, il suffit de sonner à la porte. Alors elle sonne à la porte. Personne n'ouvre. Alors elle sonne à une autre porte. Et personne ne lui ouvre. Alors elle sonne encore à une troisième, quatrième. Elle fait toute la rue. Elle est sûre qu'ils sont là. Mais personne ne veut lui ouvrir. Elle arrive devant la dernière maison de la rue. Elle frappe à la porte. Personne. Elle entend même des bruits derrière la porte. C'est qui celle-là? Tu la connais? Non, jamais vu. Oh, on ne va pas ouvrir. Hein. Je suis sûre qu'elle va nous demander quelque chose. Peut-être qu'elle veut nous vendre quelque chose. Ah oui, oui, regarde comme elle est habillée. Elle n'est pas de chez nous. Hein. Non, 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 elle n'est pas de chez nous. Hein. La jeune femme est agacée. Sans réfléchir, elle prend un gros caillou et se tourne vers la porte, lève les bras et... Et à ce moment-là, la porte s'ouvre. Oui, c'est pourquoi? Ah, bonjour. Excusez-moi, les bus m'ont laissé ici. Je repars demain matin. Oui, alors? Ben, j'ai faim. Et bon? Et j'aimerais me faire une soupe avec ces cailloux-là que j'ai dans la main. Vous voyez, c'est un caillou très spécial. Et chez nous, par chez moi, on peut faire une bonne soupe avec ça. Ah bon? Oui. Mais ben, le problème, c'est que je n'ai pas de casserole. Alors, est-ce que vous pourrez me prêter une casserole juste là, pour ce soir, pour faire cuire mon caillou? Casserole? Pourquoi pas? Alors, la dame rentre à l'intérieur, elle ferme bien la porte derrière elle. Finalement, elle revient avec une vieille casserole, mais quand même une grande casserole. Prenez. Et la jeune femme prend la grande casserole. Prend la grande casserole, il fait un feu au milieu de la belle place toute lisse et toute propre du village. Sous le feu, elle met la casserole qu'elle a remplie avec l'eau de la fontaine. Elle sort de son sac une cuillère en bois et dès que l'eau frémit, elle met dedans son gros caillou qu'elle a bien pris soin de nettoyer à la fontaine. Pendant que son caillou bout, elle mélange. Qu'est-ce que ça va être bonne, ma soupe aux cailloux. Avec ces cailloux-là, je vais me régaler. Miam, miam, miam. Et sent sur elle tous les regards des caméras de surveillance de la ville. Mais fait mine de rien, elle mélange tranquillement son caillou bouilli. Il y a un des habitants qui n'en tenant plus, est trop curieux, alors il sort promener son chien. Et il s'approche. Il demande à la jeune femme qu'est-ce qu'elle fabrique là, comme ça, dans la place du village. Alors, elle lui explique, eh ben, écoutez, je suis en train de faire une soupe aux cailloux. C'est une soupe qu'on fait par chez moi. C'est délicieux. Bon, d'habitude, on met un peu d'oignon aussi. Mais bon, là, j'ai pas d'oignon, je mets pas. C'est pas grave, hein, ça va être bon quand même. Ah, écoutez, moi, j'ai des oignons. Je pourrais vous en donner, mais en échange... Vous me ferez goûter. Mais bien sûr, je vous ferai goûter. Ah, vous verrez, c'est extraordinaire. Alors, le monsieur avec son chien va chercher les oignons. Il y a un autre voisin curieux qui s'approche aussi, qui promène son gros chien. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Ah, j'ai fait une soupe aux cailloux. C'est un régal. Et une recette très particulière qu'on fait par chez nous. Vous voudrez goûter ?
Ah oui, oui, avec plaisir.
Bon, d'habitude, on met aussi des carottes. Ah ben là, j'ai pas des carottes. J'ai pas des carottes, c'est pas grave. Ça en fera sans carottes, c'est bon quand même.
Ah mais si vous voulez, j'ai des carottes, je peux vous les apporter.
Ah ben oui, bonne idée, avec plaisir.
Alors, ben, il commence à lui apporter l'oignon, les carottes, elle, les épluche, les coupe et les met dans la soupe.
Et après, il y a encore une autre curieuse, une curieuse qui promène son chat parce qu'il n'avait pas de chien. Et il s'approche et demande, et alors, ah oui, bien sûr, vous pourrez goûter, mais bon, ce serait meilleur avec des courgettes. Bon, on n'a pas de courgettes. Ah, mais moi, j'ai des courgettes. Eh ben, si vous les amenez,
oui, bien sûr.
Et comme ça, finalement, il y a plein de gens, de plus en plus de curieux qui débarquent et chacun s'engage à amener un ingrédient nouveau. Ce qui fait qu'à la fin, la soupe sentait vraiment très bon. Et quand la soupe était prête, ils avaient dressé des tables, sorti des bols, des couverts et tous les gens étaient là, attablés dans la place centrale. Une chose qui n'était plus arrivée depuis tellement longtemps. Et ensemble, ils ont partagé la soupe, et aussi du pain, du fromage, du saucisson. Chacun découvrait d'avoir plein de choses à partager. Et après, ils n'avaient plus envie de se quitter, alors il y en a qui ont amené des guitares. Ils ont chanté ensemble, ils ont dansé jusqu'à très tard dans la nuit. Et la dame, là, la dame de la casserole, elle a demandé à la jeune fille s'il faisait l'honneur de dormir chez elle. C'était une soirée mémorable. Et le lendemain matin, quand la jeune femme s'est dirigée prendre son bus, il y a l'enfant qui l'a rattrapé et lui dit « Mais mademoiselle, mademoiselle, vous avez oublié votre caillou ?»«
Oh, je te le donne. Tu connais la recette maintenant. »
C'est l'histoire des deux travailleurs intérimaires. Ils font des enquêtes téléphoniques. Alors les enquêtes téléphoniques, c'est très simple. Les numéros défilent. Il faut poser toujours les mêmes questions avec la même intonation. Les deux travaillent face à face. Quand ils peuvent, quand la ligne est occupée ou autre, ils arrivent à échanger quelques mots. Tu prends des vacances, toi, cette année ?
Eh ben, tu sais, les vacances, c'est pas payé.
Ben oui, je sais, mais moi, je ne peux plus.
Ah oui, moi, ça fait longtemps, très, très longtemps que je n'ai pas pris des vacances.
Je me souviens, la dernière fois, il y a des années de ça, j'étais partie en Inde.
En Inde ?
Oui, 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 en Inde. J'étais allée chasser le tigre du Bengale.
Le tigre du Bengale ?
Oui, 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 c'est de la chasse au gros. On était partis avec tout l'attirail. Il y avait un guide, on avait des porteurs qui portaient les sacs. On a traversé la jungle. On a traversé la jungle pendant 15 jours. C'est une jungle terrible. Il faudrait couper les branches avec les massettes. Et il y avait des moustiques qui étaient gros comme des rats. Il y a un gars qui était avec moi. Il s'est fait bouffer le nez.
Ouais, il avait plus de nez.
Et après, eh ben, il saignait tellement qu'il y a tous les autres moustiques qui sont allés. Ah là là là. Terrible, terrible. Il est mort.
Ah bon ?
Oui, oui, mais bon, les pires, c'est quand on est arrivé en face du tigre du Bengale. Tous les autres ont eu peur et ont décampé, mais pas moi. Non, non, moi je suis restée là, j'ai pris mon fusil et j'ai pas de cartouches. Alors, les cartouches, je l'avais dans la poche, j'essaie de les sortir, elles tombent par terre, dans les sables mouvantes. Alors, elles se font avaler dans les sables mouvantes et à ce moment-là, les tigres, ils me voient, ils bondissent vers moi et ils m'arrachent un bras. Il les mâche doucement et après il crache les os. Après il m'arrache une jambe et la mâche doucement et il crache les os. Et après il me regarde fixe dans les yeux et il rougit, fait trembler toute la forêt. Et là il m'avale, il me dévore, il me mâche et il crache les os.
C'est pas vrai ton histoire ?
Mais si c'est vrai.
Mais non, ben, c'est pas possible.
Mais si, si, c'est vrai. Je t'assure.
Non mais, tu dis qu'il te dévore. Hein. Tu serais mort. Hein. Alors que tu es là, en face de moi. Tu es bien vivant.
Ah, tu appelles ça une vie, toi ?
Même audio. Une mémoire sonore ?